Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
On l'a appris ce matin, le Premier ministre Gabriel Attal fera des propositions demain aux agriculteurs. Il se déplacera sur le terrain, on ne sait pas encore où. En attendant, le mouvement s'amplifie encore et il se durcit même. Les opérations coup de poing se multiplient contre des symboles, notamment la grande distribution.
Les agriculteurs vont-ils bloquer Paris ? Titre alarmiste dans le journal de TF1 il y a un peu plus d'un mois. On connaît la suite. Mais la colère paysanne a obligé le gouvernement à multiplier les annonces. Et si celle-ci n'est pas complètement éteinte, on se demande aujourd'hui si les agriculteurs ne vont pas faire des émules dans le secteur du BTP frappé lui aussi par la crise. Verra-t-on bientôt des grues bloquer les routes à la façon des tracteurs ?
Ça va, voilà, on arrive, voilà, on est là.
Ça vous arrive souvent de vous garer comme ça ? Vous êtes des grands malades, vous !
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Tous les jours, la rédaction se mobilise pour éclairer et analyser l'économie. Mais ce podcast existe aussi grâce à vous. Pour nous soutenir, abonnez-vous sur les plateformes de téléchargement et de streaming.
Une pelle mécanique à l'œuvre ce matin devant cette maison en construction à Bassussari. Les travaux de terrassement vont ici bon train et pourtant le secteur du BTP est aujourd'hui en souffrance. Comme tous ses confrères, Lionel Beautegui voit le nombre de ses chantiers sensiblement diminuer ces derniers temps.
C'est un des derniers que l'on a en construction individuelle. Depuis le début d'année, je n'ai pas pris de nouveaux chantiers de construction individuelle parce qu'on n'a pas eu de demande.
La crise du bâtiment prend de l'ampleur, constat sur fond de tractopelle par France 3 Nouvelle-Aquitaine, et c'est valable partout en France. Le 22 mars, la Fédération française du bâtiment réunira son conseil d'administration, et à cette occasion, alors que la colère couve chez les adhérents, elle pourrait décider de lancer des actions plus visibles pour exprimer leur protestation face à une crise qui s'installe et menace les emplois. Les artisans, les plombiers, les couvreurs, des gens que l'on a plus l'habitude de voir sur leur chantier que dans la rue, et on connaît la chanson.
Quand le bâtiment va, on va, partout il y a de la joie quand le bâtiment va.
Or aujourd'hui, le bâtiment ne va pas. Bonjour Christophe Paliers.
Bonjour Pierrick.
Journaliste au service entreprise des Échos, vous suivez le BTP. La colère gronde dans le secteur ?
Ça gronde en effet, Pierrick, et on devrait même dire depuis quelques temps, en réalité, depuis au moins le début d'année, la FFB prévient que sa base s'agite dans les départements. Et donc, tout ça fait que ça monte, à tel point que le conseil d'administration de la FFB, la Fédération française du bâtiment, donc, se réunit le 22 mars. Et au cours de cette réunion, a priori classique du conseil d'administration, elle pourrait se prononcer sur des mesures de mobilisation de ses adhérents. Et c'est clairement un message à la fois à l'externe et à l'interne, parce que les gens vraiment s'animent, et notamment sur les réseaux sociaux.
Ouais, le BTP, un peu comme une cocotte minute, on sent bien que la pression est en train de monter à l'intérieur. Pourquoi cette grogne ?
Eh bien, parce que le contexte fait qu'on a eu récemment le mouvement des agriculteurs, et ce mouvement, il a beaucoup marqué, semble-t-il, parce qu'en fait, même si notre consoeur Marie-Josée Cougard, qui suit l'agriculture, considère que tout n'a pas été répondu aux attentes, on voit bien quand même que les agriculteurs ont eu gain de cause sur un certain nombre de sujets qui étaient visiblement arbitrés depuis longtemps. Et donc, ça renvoie à la mobilisation des professionnels du bâtiment qui veulent vraiment beaucoup de choses de la part des pouvoirs publics.
L'exemple des agriculteurs montre qu'effectivement la grogne peut parfois payer, mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans le bâtiment ?
Au fil des mois, la crise de la construction neuve qui ne concerne pas que le secteur du logement dont on parle beaucoup, puisque l'immobilier tertiaire est également en rade, pèse toujours plus. Deux chiffres pour illustrer un peu mon propos là, que j'ai recueilli avant de vous voir, Pierrick. À la fin janvier, les mises en chantier reculent ainsi de 25% sur un an pour le logement et de 15% pour le non-résidentiel, c'est-à-dire tout le reste. donc les bureaux en particulier. Et la seule chose qui fonctionne aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le bâtiment administratif, parce qu'on a ce qu'on appelle le cycle municipal. Les collectivités locales ont investi depuis quelques temps et donc ça commence à se faire sentir, mais tout le reste est vraiment à l'arrêt.
La catastrophe est là pour au moins 2 ans, hein, dit le président de la Fédération française du bâtiment, avec ce marché du neuf qui ne va pas bien, on le sait, mais on pensait que le secteur était quand même soutenu par les ambitions en matière de rénovation, notamment énergétique.
Alors le marché de la rénovation est en effet solide jusqu'à présent. En 2023, l'activité, grosso modo, a augmenté de 2,3% pendant que la construction neuve était en baisse de moins de 5%, mais cela étant, le marché est en train de s'arrêter. Les décisions récentes du gouvernement Attal, qui sont revenues sur des décisions du gouvernement Borne sur le recentrage de MaPrimeRénov', sur la rénovation globale, l'impératif du Conseil pour les ménages a fait que la demande s'est totalement arrêtée, à tel point qu'au début de l'année, enfin sur janvier-février, les demandes de MaPrimeRénov' ont chuté de 40% par rapport à l'année dernière. Donc on voit bien que même la rénovation est à l'arrêt et les professionnels sont très inquiets parce qu'en fait, il y a un phénomène d'inertie. Et donc, c'est peut-être tout le premier semestre 2024, pour la rénovation également, qui pourrait être pénalisé.
La rénovation ralentit. On a l'impression que le neuf creuse. La fédération parle de crack de la construction. Il ne mise que sur 250 000 logements commencés cette année, soit un ratio de 8 mises en chantier pour 1000 ménages, comme au tout début des années 1950. Alors, Christophe, comment cette fragilisation du secteur du bâtiment se traduit-elle ?
Effectivement, Pierrick, alors évidemment, dégradation de la trésorerie, et bien plus que ça encore, c'est que c'est l'explosion des faillites. Le cabinet Altares a récemment indiqué que sur 3 mois à la fin janvier, donc 2024, hein, le nombre de faillites a augmenté de 40% par rapport à la période précédente, par rapport à il y a un an. Et c'est même pire que ça, puisqu'on est supérieur à 32% par rapport à la période avant crise sanitaire. Donc on voit bien que le secteur s'enfonce vraiment dans la crise et avec un certain nombre de conséquences connexes au-delà de la filière bâtiment stricto sensu.
Et la FFB évoque un scénario noir en matière d'emploi. Le bâtiment pourrait perdre 150 000 postes d'ici la 2025, dont 90 000 cette année. Pourtant, Christophe, quand on regarde les résultats des géants du secteur comme Bouygues, Vinci ou Eiffage, hein, qui a passé la barre du milliard de profits en 2023, on n'a pas l'impression qu'il y ait péril en la demeure.
En fait, Pierrick, c'est un autre monde que celui des majeurs, parce que les majeurs du BTP sont tirés par 3 grands points, si je puis dire. Il y a l'international, et notamment pour le bâtiment, les travaux publics, y compris en France d'ailleurs, la demande d'infrastructures est conséquente. Et puis il y a aussi tous les besoins de services et d'équipements en lien avec l'énergie qui renvoient à la décarbonation de l'économie et de la planète en général. Et les majeurs sont positionnés sur tous ces éléments-là. Et donc tout ça fait que ça tire l'activité alors même qu'en France ça paraît un peu morose. Et puis il y a un autre point par ailleurs important, si on revient à Vinci et Eiffage, ce sont les concessions. Parce que le trafic a repris sur les autoroutes et dans les aéroports et c'est extrêmement bénéfique pour ces 2 grands groupes. Pourquoi ? Parce que les concessions sont extrêmement rentables. Donc tout ça fait que ces majeurs se portent très bien.
Ouais, c'est un peu l'arbre qui cache une forêt dévastée, on va dire,
oui,
dans le BTP.
Oui, parce que si je prends un autre exemple, celui de Saint-Gobain qui a un peu marqué le pas l'an dernier, Saint-Gobain, qui est forcément touché par la crise de la construction neuve, puisque c'est un fournisseur de matériaux et de produits de construction, a profité de son internationalisation, et notamment en Amérique du Nord, parce que le marché nord-américain est extrêmement porteur, et puis aussi de la rénovation, puisque il faut de la laine de verre et autres produits pour la rénovation.
Alors la crise touche aussi les entreprises qui travaillent avec le BTP. Comment cela se traduit-il ?
La construction, c'est une chaîne. Donc à un moment donné, l'onde de choc atteint aussi, on citait Saint-Gobain il y a 2 secondes, les fournisseurs de matériaux et équipements qui servent à la construction. Pourquoi ? Parce que la chute du nombre de chantiers se traduit mécaniquement à un moment donné par une chute des commandes des constructeurs. Et c'est d'ailleurs la grande inquiétude aujourd'hui de l'Association française des industries des produits de construction qui réunit l'ensemble des organisations professionnelles de ces industriels des matériaux et produits de construction et est très inquiète pour 2024 et 2025. 2 autres chiffres que j'ai collectés juste avant qu'on se voit pour les matériaux de construction. Tout ça paraît un peu loin du bâtiment. Eh bien, l'air de rien, on a une baisse de moins 6% pour les granulats en 2023 et de moins 10,5% pour le béton prêt à l'emploi. Sachant que 2023, c'est un plus bas historique. Donc, inquiétude pour 2024 parce qu'on sait déjà que ça sera pire qu'en 2023. Et 2025, il faudrait vraiment que ça reparte très rapidement.
Ce matin, j'ai annoncé à des propriétaires que je renonçais à faire le projet. Ça aurait été une opération d'une trentaine de logements, ce qui ne se fera pas parce qu'elle n'a plus son équilibre aujourd'hui. C'est le cumul des contraintes entre un prix de foncier, un coût de travaux qui est important, où on arrive pour équilibrer tout ça à un prix de sortie qui n'aurait pas été réaliste aujourd'hui.
Le témoignage sur Europe 1 début mars, un promoteur immobilier lyonnais qui a expliqué à Jean-Luc Boujon pourquoi il renonçait à construire un bâtiment de 30 logements. Elsa Dichary, bonjour.
Bonjour.
Vous suivez le secteur immobilier aux Échos. Les difficultés rencontrées par le secteur du BTP sont à l'image de celles subies par les promoteurs ?
Oui, en réalité, ce sont même les difficultés des promoteurs qui ont entraîné en grande partie le secteur du bâtiment dans la nasse. Alors, les chiffres sont connus. Hein. En 2023, les mises en vente de logements neufs se sont effondrées de près de 33% sur un an. Les réservations de logements neufs ont chuté de près de 21% sur un an et de plus de 40% sur deux ans. Car les problèmes ne datent pas d'il y a quelques mois. À une crise de l'offre est venue s'ajouter une crise de la demande. Entre des prix de plus en plus élevés et des taux d'intérêt d'emprunt immobilier qui ont grimpé rapidement, les candidats à l'acquisition se sont retrouvés coincés et dans l'impossibilité d'acheter. Le marché du logement neuf n'est pas le seul à souffrir. Les promoteurs immobiliers ne lancent plus ou presque de programmes de bureaux. Résultat, c'est la crise. Chez les promoteurs, les petits, les moyens, mais aussi les grands, les embauches sont gelées et l'heure est souvent aussi au licenciement. Deux poids lourds du secteur, Vinci Immobilier et Nexity, ont même lancé un plan de sauvegarde pour l'emploi.
Et le 28 février, effectivement, le premier promoteur immobilier de France, Nexity, a effectivement annoncé un PSE. Sa patronne, Véronique Bédague, parle d'une crise inédite par son ampleur, par sa nature, à la fois résidentielle et tertiaire. Et symbole des difficultés du groupe, son action a chuté de 38% en un mois. Elle perd même près de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année. Elsa, il y a quelques jours, vous vous êtes rendue à Cannes. Alors, pas pour les vacances, ni pour traîner au Bisou Bisou ou à l'Elva Club, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec ce trailer du MIPIM. Le MIPIM, c'est le grand salon des professionnels de l'immobilier. Vous y étiez. Quelle était l'ambiance ?
Alors, on ressentait de l'attentisme, de l'inquiétude et même un peu de morosité, malgré quand même les cocktails et réunions sur les yachts et plages privées qui font la spécificité du MIPIM. Les invités m'ont quand même affirmé que le salon était moins bling-bling que les autres années. Fait marquant tout de même la venue du patron du MEDEF, Patrick Martin. Il s'est déplacé en personne à Cannes pour soutenir les professionnels de l'immobilier et en particulier, a-t-il dit, les promoteurs. Il a alerté le gouvernement sur une situation vraiment critique et a répété que la crise de l'immobilier risquait de coûter cette année 0,3 points de PIB à la France, sans parler des 300 000 emplois menacés. Il a estimé que l'État avait une vision trop strictement budgétaire de la situation, c'est le MEDEF qui le dit, et a appelé à flécher à nouveau l'investissement vers l'immobilier, en particulier l'investissement locatif.
La Fédération du bâtiment s'échauffe, mais avec Christophe, vous avez fait aussi le tour pour les Échos des différents secteurs touchés par la crise du logement et la liste commence à devenir assez longue.
Oui, la crise de l'immobilier concerne aussi bien le neuf que l'ancien et aussi bien la transaction que la location. Elle touche de multiples professions, les agents immobiliers, les courtiers, les notaires, les architectes ou encore les déménageurs. L'an dernier, le nombre de faillites d'agences immobilières a plus que doublé par rapport à 2022 et les professionnels estiment que le pire est à venir. Les notaires affirment traverser leur plus grave crise depuis 30 ans. Fin 2023, 14 études parisiennes avaient été placées en cessation de paiement et en début d'année, l'une d'elles a mis la clé sous la porte.
Les notaires vont devoir se serrer la ceinture, mais ils ne seront pas les seuls. Le président de l'Union nationale des syndicats français d'architectes s'attend à 10 000 suppressions d'emplois sur les 60 000 salariés qui composent la profession, en cause des projets retardés ou annulés et une baisse des commandes. Les déménageurs ont eux aussi constaté une baisse de 25 à 30% de leur chiffre d'affaires pour l'année 2023, alors que, on le sait, le marché de la location est aussi grippé. C'est un secteur qui s'inquiète aussi des risques de défaillance parmi ses adhérents.
Et je suis ici pour un déplacement qui est consacré au logement. Vous avez entendu dans ma déclaration de politique générale que j'ai décrété l'urgence pour le logement en France.
Gabriel Attal veut aller chercher tous les logements possibles avec les dents. Alors la dernière fois que j'avais entendu cette expression, c'était Nicolas Sarkozy qui parlait de la croissance. Quand les paysans ne sont pas contents, les œufs volent bas au salon de l'agriculture. Dans le bâtiment, on a plutôt des parpaings et du goudron. Le nouveau ministre du logement, Guillaume Kasbarian, est attendu avec impatience par les professionnels. Il va avoir du pain sur la planche ?
Oui, clairement. Dans l'ensemble, beaucoup de professionnels de l'immobilier se félicitent de ce qu'ils appellent un changement de discours à la tête du gouvernement. Ils estiment que le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, et le ministre de la Transition énergétique, Christophe Béchu, sont à leur écoute. Mais ils attendent désormais des actes et pas juste de la communication politique. Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, est inquiet du ras-le-bol de ses adhérents. Certains, assure-t-il, lui demandent aussi de rejoindre le mouvement des agriculteurs. Il ne cesse de répéter qu'il faut agir en priorité sur la demande, mais pour l'heure, ce n'est pas la stratégie du gouvernement.
Justement, que propose le gouvernement pour calmer la vindicte des métiers du bâtiment ?
Alors, Guillaume Kasbarian l'a dit à l'occasion du MIPIM, j'ai une feuille de route qui est très claire, remettre de l'offre sur le marché, de l'offre et encore de l'offre de logement. Il compte s'appuyer sur différents leviers qui reposent essentiellement sur des simplifications administratives, production accélérée de logements sur 22 territoires ciblés, transformation de bureaux en logements, surélévation d'immeubles, densification douce de zones pavillonnaires. Bref, rien qui ne coûte de l'argent à l'État en pleine diète budgétaire.
Christophe, comment ces annonces ont-elles été accueillies justement par les professionnels du bâtiment ?
Alors déjà, il faut parler de mesures de simplification administrative, mais quand même, elles sont plutôt bien perçues. Pourquoi ? Parce que ça assouplit le principe de la construction pour différents domaines. Et puis, par ailleurs, ce sont des préconisations qui sont faites par les professionnels depuis des mois. Mais les entreprises, grandes et petites, restent sur leur faim parce que, à l'instar d'ailleurs des professionnels de la promotion immobilière, on considère aujourd'hui que le gouvernement agit sur l'offre. C'est le fameux choc de l'offre promis par le Premier ministre, mais pas sur la demande, c'est-à-dire les ménages. Et c'est pour ça que la FFB, d'ailleurs, parfaitement alignée, si je puis dire, avec la Fédération des promoteurs, plaide pour des mesures d'incitation à la dépense, ou plutôt d'accompagnement des achats des ménages. Par exemple, un dispositif qui prendrait le relais du dispositif Pinel de défiscalisation pour l'investissement locatif, et puis aussi revenir sur le resserrement du PTZ, le prêt à taux zéro, qui s'est recentré sur certains ménages et sur certaines régions. Et le problème, c'est que le gouvernement, évidemment, ne veut pas en entendre parler. Pourquoi ? Alors déjà, sur le Pinel, le gouvernement il considère que c'est plus du cadeau fiscal pour certains, et par ailleurs, l'État, aujourd'hui, il cherche de l'argent.
De l'offre, clame le gouvernement. De la demande, réclame le bâtiment. Mais on le sait, l'heure est aux économies, c'est ce que dit le gouvernement. Mais Elsa, il y a un autre défi pour le secteur, trouver des terrains constructibles dans les communes. Et là, c'est une autre paire de manches.
Oui, les terrains sont déjà rares et chers et l'objectif ZAN pour zéro artificialisation nette des sols, désormais inscrit dans la loi, va peu à peu aggraver les choses. Il s'agit désormais d'apprendre à opérer autrement en reconstruisant la ville sur la ville et en rénovant au maximum les bâtiments déjà existants. Et ça, la filière l'a désormais intégré. Mais les promoteurs ont un autre sujet d'inquiétude. Les prochaines élections municipales auront lieu en 2026. Et ils assurent que plusieurs mois avant ce type d'élection, les maires ont tendance à geler tout projet de construction dans leur commune. Pour eux, il faut impérativement relancer la machine avant cette échéance.
Pourquoi est-ce que les maires coupent les budgets ou coupent les projets avant les élections ?
Alors certains considèrent que c'est dangereux de lancer des projets qui ne plairaient pas à la population. C'est vrai que dernièrement, il y a eu beaucoup de ras-le-bol de la densification dans un certain nombre de communes. Et donc, l'heure n'est plus forcément aux maires bâtisseurs.
Merci Elsa Dichary, spécialiste de l'immobilier aux Échos. Et merci Christophe Palliers qui suit le BTP pour le journal. Vous pouvez retrouver les enquêtes, reportages et analyses du service entreprise sur leséchos.fr. Et si vous n'êtes pas abonné, il n'est pas trop tard. Rendez-vous sur le site abonnement.leséchos.fr/la-story. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la description de ce podcast des Échos. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnès.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.